la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous. Vous êtes tous au courant des 30 ans du musée du Carré d'Art, mais aujourd'hui, nous allons faire les 30 ans du musée du Carré d'Art, enfin du Carré d'Art, pas que du musée, au musée de la Romanité, avec son conservateur, Nicolas Delarquier, bonjour.
Bonjour.
Également commissaire de l'exposition dont nous allons parler, Mémoire vive, qui a démarré le 21 avril et qui dure jusqu'à la fin de l'année. Il faut bien deux émissions pour en parler, je crois. Hein.
Ah, il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup.
Donc, si on peut prendre deux émissions, c'est parfait.
Alors, j'ai suivi la visite qu'on appelle la visite de presse, donc, où il y avait l'artiste, Oliver Laric, que nous écouterons dans la deuxième partie de l'émission. Et nous vous retrouverons après pour nous donner encore plus de détails. Alors, Nicolas Delarquier, on s'est vu aussi dans le plateau radio du 2 juin, où vous étiez en bonne compagnie. Sophie Roule n'avait pas pu venir. Mais il y avait Jean-Marc Prévost qui est à l'origine de ce projet.
Hein? Oui, tout à fait. On peut clairement dire que, alors, à l'origine du projet, il y a évidemment l'anniversaire Carré d'Art. Donc, notre objectif, c'était vraiment de participer à cet anniversaire. Et c'est sûr que moi, je suis spécialiste de l'Antiquité gréco-romaine, donc pas du tout de l'art contemporain. Donc, on a été chercher un artiste grâce aux connaissances de Jean-Marc Prévost, qui connaît très, très bien la scène internationale.
Donc, Oliver Laric, vous le connaissiez ?
Non, moi je ne connaissais pas Oliver Laric.
C'est bien de l'avouer.
Non, mais tout à fait. Et puis je l'avoue d'autant plus sans complexe que voilà, c'est pas ma partie. Et puis en plus, c'est un mouvement artistique qui est assez récent, assez novateur, lié au numérique. Mmh. Et donc c'est sûr que c'est pas le genre de choses que j'ai appris pendant mes études.
C'est vrai que ça peut surprendre que dans un musée comme le musée de la Romanité, il y ait cette exposition très contemporaine. Et c'est une ouverture. C'est une ouverture d'esprit.
Alors, c'est non seulement une ouverture. Après, c'est vrai que de plus en plus, l'art contemporain est invité dans les musées classiques ou dans les musées d'antiquité. On pense à Versailles qui a initié ça très tôt avec Jeff Koons, avec d'autres grands artistes. Donc là, c'était un petit peu le baptême du feu pour le musée de la Romanité. Et c'était un peu bousculer nos codes, c'est sûr.
C'était un peu stressant et c'est Jean-Marc Prévost qui m'avait dit qu'il faut absolument demander son avis à Nicolas Delarquier parce qu'il avait peut-être été un peu beaucoup décontenancé et surpris.
Alors, j'allais pas dire que j'étais décontenancé et surpris, mais on va dire que les logiques de travail avec un artiste vivant, avec lequel il faut créer en fait une exposition. La plupart du temps, dans un musée archéologique, on crée une exposition avec des œuvres qu'on connaît déjà. Mm-hmm. Là, la particularité, c'est qu'on a demandé à Oliver Laric de faire une production nouvelle, une nouvelle création pour cette exposition-là. Et forcément, c'est toujours un peu stressant pour un conservateur de se dire, peut-être même à 2 mois de l'ouverture d'exposition, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans cette exposition.
Oui, ça change un peu votre rôle, votre position. Ça vous oblige à vous questionner et puis c'est certainement très enrichissant parce que ça vous apporte des clés peut-être pour autre chose.
Et c'est sûr que là, d'habitude, quand on est commissaire d'une exposition, c'est nous qui avons le discours. Là, le discours, il a fallu qu'on le crée avec l'artiste à partir de sa création. Donc, il fallait aussi décrypter les différents moments, les évolutions de sa création, de sa production, les découvertes qu'il faisait au fur et à mesure, les nouvelles orientations qu'il voulait donner. Donc, il fallait s'adapter.
Beaucoup. Oui, lors de la visite de presse, vous avez dit que pour scanner, photogrammer, comment on dit ?
On peut inventer le verbe photogrammétrer si vous voulez, ça sera plus facile, mais c'est un néologisme.
Vous avez passé des nuits entières pour prendre ces photos. Donc, c'est une expérience très riche pour vous. Alors, je finis pour dire que lors du plateau sur les 30 ans du Carré d'Art, il y avait aussi Christian Debize, le directeur de l'École des Beaux-Arts de Nîmes. Donc là aussi, on était vraiment dans des artistes tout jeunes, émergents, vivants.
C'est ça.
Puisque vous avez l'habitude de travailler avec des artistes morts, et quelquefois depuis très longtemps. Et également Valérie Bouissou, la directrice des bibliothèques de Nîmes, toujours dans cet esprit d'ouverture, c'est-à-dire que le Carré d'Art ou un musée, ce n'est pas qu'un musée, c'est un lieu de vie, d'échange, de partage. Alors, nous revenons à notre exposition Mémoire vive. On reprend ce titre, Mémoire vive. C'est vous qui l'avez trouvé ? C'est Jean-Marc Prévost ? C'est Oliver Laric ?
C'est Oliver Laric. Ça a été compliqué de trouver un titre parce qu'évidemment, il fallait que ça corresponde à l'œuvre qu'Oliver Alaric faisait, puisque son exposition, il la considère comme une œuvre totale, hein, et pas uniquement comme plusieurs œuvres mises ensemble. Donc, il fallait qu'il ait un titre qui corresponde vraiment à son esprit. Et nous, il fallait aussi qu'on parle à nos visiteurs qui sont peu habitués à l'art contemporain de quelque chose qui fasse le lien. Donc là, comme ça, on a trouvé un petit peu ce jeu de mots. Alors lui, il est de langue allemande en plus, donc on était étonnés qu'il réussisse à trouver ce jeu de mots qui mêle le numérique, l'informatique et, j'allais dire, la mission de mémoire que peut avoir un musée.
Et l'affiche contribue aussi à cette interpellation du public. C'est jamais gagné, en fait, qu'un public vienne dans une exposition. Et quelle est la force de cette affiche bleue qui fait très moderne, très contemporaine, alors, sur un sujet classique?
La force de cette affiche, c'est que déjà pour les Nîmois qui ont un petit peu suivi l'actualité archéologique de ces dernières décennies, on a mis en affiche une des œuvres emblématiques du parcours du musée qui est le Neptune à la Fontaine, la Fontaine de Neptune des fouilles archéologiques de l'avenue Jean Jaurès. Et on l'a complètement transformée. Hein, donc vous avez bien dit, elle est... on lui a donné un petit côté de scan et un petit côté pop aussi, ouais, en la recouvrant de ce voile un peu violet, bleu, etc. Et en plus de ça, vous voyez également différentes textures, des textures de la sculpture en elle-même, micro-perforées ou un peu grillagées comme ça, qui évoquent aussi le travail en patchwork que fait Oliver Alaric, puisqu'il va travailler à partir de nos collections et il les réinterprète à sa sauce.
Alors, c'est un long travail de préparation. C'est une résidence, en fait. Il est resté combien de temps? Enfin, je suppose pas d'un seul bloc. Il est peut-être revenu plusieurs fois.
Alors, Oliver Alaric, qui travaille à Berlin. Il a son atelier à Berlin, donc il est venu au musée. Il s'est inspiré des collections. On lui a montré, peut-être comme on n'a jamais montré à personne les collections, bon, à part quelques chercheurs, mais les chercheurs, ils viennent avec un objectif précis.
Il venait faire son choix.
Il venait un petit peu faire son marché en sculpture, c'est un peu ça.
Et il les a vus en vrai ou sur
alors
catalogue?
Alors, il les a vus en vrai, complètement. Mmh. Alors, évidemment, on ne lui a pas sorti les objets des vitrines quand c'était trop compliqué, mais on l'a amené aussi en réserve, donc il a pu voir les immensités de blocs sculptés que l'on pouvait avoir. Et à la fin, il a fait une sélection d'objets qui étaient ceux, je pense, qui le touchaient. Et de cette sélection, d'abord, la sélection a été un petit peu vaste, une vingtaine d'objets. Et ensuite, il a réduit ses choix autour de 4 œuvres autour desquelles il a créé sa réinterprétation.
Vous lui avez défini un nombre en fonction de la salle, je suppose. Il y avait des obligations de...
On a un peu accueilli Oliver avec l'idée d'une carte blanche quand même. Ouais. La seule obligation qu'on lui a un petit peu donnée, c'est qu'on voulait que les visiteurs comprennent le travail qu'il avait fait aussi avant et pas uniquement les œuvres proposées lors de la résidence. Donc, on lui a demandé que dans un espace d'introduction, on puisse voir des œuvres qu'il avait fait par le passé et pour qu'on comprenne une forme de filiation entre là d'où on part et ce qu'il a fait pour le musée de la Romanité.
Oui, parce que vous pouvez avoir un public jeune, tout à fait habitué au numérique, à la photogrammétrie, et puis d'autres qui découvrent et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? De l'aluminium, du nylon, oh là là !»
C'est un peu disruptif quand vous arrivez dans, l'espace, que vous êtes dans un musée d'archéologie, que vous êtes peut-être passé dans le parcours permanent et que vous avez vu que des statues en calcaire ou en marbre, et vous arrivez dans un ensemble où il y a de l'aluminium, où il y a de la peinture pour voiture, où il y a de la résine, il y a de la poudre, il y a des choses comme ça. Donc évidemment, c'est un peu déroutant, mais ça vaut vraiment le coup. Et moi, je peux appeler que les visiteurs du musée à se dire, tiens, je vais faire un petit excursus par l'art contemporain et puis voir aussi une forme d'art contemporain qui n'est même pas complètement déroutante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'art conceptuel. Il y a un concept derrière cette exposition, mais il y a un vrai support figuratif. Et je pense que c'est plus un à côté, un petit voyage à côté de l'Antiquité qu'on propose.
Non, puis je parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit, c'est important, c'est-à-dire de ne pas avoir de blocage en se disant « mais c'est n'importe quoi ».
Et puis en plus, ce n'est pas du tout n'importe quoi, pour un coup, on a un vrai arrière-fond scientifique, parce que la conservation du musée l'a guidé dans toute sa création, sa réinterprétation des œuvres.
Alors, je vous propose qu'on écoute Oliver Alaric lors de la visite que vous avez faite. Je pense que c'est important de l'entendre. Alors, bien sûr, il parlait devant des œuvres, donc là, ça peut un peu surprendre l'auditeur. Mais je pense que c'est très important, puis on se retrouve après. Oliver Alaric, vous nous avez fait le plaisir de nous faire visiter cette exposition avant le monde.
vos impressions, le résultat d'un travail, d'un investissement dans ce musée archéologique. Comment vous ressentez cette exposition ?
Je suis content que je suis fini maintenant et qu'il y a toutes les pièces dans l'espace, ils ne se sont pas cassés, mais c'était vraiment une expérience qui m'a excité. Quand j'ai eu l'email, l'invitation de travailler, j'ai pensé à ça, c'est vraiment une chose que je veux faire et je veux faire de la recherche et je veux travailler avec la collection et c'est parfait pour moi.
C'est un enrichissement puisque vous avez vu toutes les réserves du musée, oui. Donc vous êtes aussi dans un sentiment de plénitude, de connaissance et puis de création.
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, donc vous êtes un artiste heureux.
J'ai travaillé avec... ça commence à l'ordinateur et je fais un imprimant 3D. Et de ce imprimant 3D, je fais une moulage. Je travaille avec le résine. Et, je mélange des poudres de marbre ou de granit avec du résine. Et je les mets dans le moulage. Et c'est toujours un peu une surprise pour moi comment ça sort si je le prends du moulage. Et on peut peut-être aussi regarder de l'autre côté. Pour moi, c'est... la côté plus intéressante, on voit le processus de la construction et je veux pas travailler comme que c'est une forme complète, mais j'essaye d'utiliser le moins de matériaux que possible. Alors j'ai des, je sais pas comment dire, des supports,
des structures,
oui, des structures de support,
des tiges,
oui, des tiges. Ça, pour moi, c'est un point qui parle du travail. Et c'est pas seulement la forme qu'on voit de l'avant, mais c'est aussi le soft et tout. C'est tout part du travail. Et quand même, si on voit derrière, ça, c'est peut-être qu'il n'y a pas. Je n'essaie pas de cacher quelque chose, parce que c'est tout part que je vais vous montrer. C'était un des premiers objets que j'ai scanné en 2012 en Angleterre. C'est un artiste, John Gibson, d'Angleterre. Et c'était un des premiers objets que j'ai scanné et j'ai décidé de travailler avec cette forme. Et la première fois que j'ai utilisé, c'est de faire un relief qu'on voit là-bas. Et j'ai décidé de faire un relief en résine, un peu comme l'autre forme, le personnage endormi. Mais il y a aussi des autres possibilités qui ne sont pas à moi. Alors, les scans que je mets sur mon site web, ils sont utilisés par tous sans droit d'auteur. Et pour ça, il y a des... il faut peut-être regarder à ces vidéos-là. J'ai fait un travail avec ce scan la première fois, je pense, en 2015, et je savais qu'il y avait une autre version dans un musée à Naples, mais quand il y avait une exposition au musée de l'humanité en 2019, je pense, sur Pompéi, et à cette exposition, on a montré la version du Armanubis de Naples, et c'était quand même dans le même espace, c'était ici, en 2019, alors j'ai pensé, ça c'est une... Ça continue un peu ma recherche et la spécificité de ma recherche locale, au musée de l'humanité. J'ai essayé de faire un scan de l'Armanubis à Naples et la version à Naples, elle manque les bras et le visage. J'ai travaillé avec un sculpteur numérique qui a fait une version où on a mis la main et le visage. Et peut-être aussi, je peux parler des matériaux que j'utilise. On peut le voir, si on regarde de l'autre côté, c'est tout fait en imprimant 3D. Et ici, c'est le nylon et aluminium. Et parfois, c'est généralement dans l'exposition, c'est nylon et aluminium. Et j'essaie d'utiliser moins de matériaux. Alors, il y a juste 2 mm de surface et avec la perforation c'est quand même moins de matériaux et ça permet aussi de voir Adam dans la sculpture, l'espace négatif, ou je ne sais pas comment dire. On voit quand même la construction avec, et on voit les vis et tout, et ça c'est intéressant pour moi de ne pas cacher rien, et que aussi le socle, c'est une autre fois comme avec le personnage endormi, c'est par du travail pour moi. Et c'est important pour moi que les sculptures ne sont pas dures et qu'elles sont légères. Maintenant, on ne peut pas voir parce qu'ils sont connectés avec des plaques, mais ils sont moins de 5 kilos, on peut les transporter. Ce n'est pas de la sculpture un étage plus haut. Ça, c'est aussi peut-être une possibilité qui est différente maintenant, de travailler maintenant dans la sculpture. On n'a pas besoin d'utiliser... c'est un choix pour tout, mais pour moi, ça m'intéresse de faire des sculptures très légères et éphémères, peut-être.
Au départ, comment est venue cette envie de puiser dans le patrimoine de l'Antiquité? Est-ce qui vous a interpellé dans cette...
J'ai commencé, pour moi, quand j'ai écouté la musique, c'était quand j'étais un enfant, c'était le hip-hop. Et le hip-hop, si on découvre les sources de l'hip-hop, c'est la musique des années 70. Mm. Et c'était pour moi, je ne sais pas comment dire, c'était intéressant de voir qu'il y a un stage avant, toujours. Et c'est pas comme... on commence à zéro, il y a des liens, uniquement des links.
Des racines, des liens.
Pour moi, j'aime penser comme ça qu'il n'y a pas. Qu'on peut regarder que c'est comme un organisme rhizomatique qui est. Toujours qu'on travaille seul, mais c'est toujours en
connexion.
Quand j'ai quand j'ai trouvé dans le classicisme qu'on n'a pas fait une sculpture, mais il y avait toujours des versions de sculptures, et la sculpture grecque et après la sculpture romaine, et quand il y a toujours des relations, ça m'intéresse. Et c'est pour moi, il y a des parallèles à la musique de hip-hop et dans la statue classique, et aussi il y a des raisons un peu pratique, comme si je veux travailler avec des formes d'autres, c'est possible, là, quand l'auteur il est mort plus que 70 ans. Alors, s'il n'y a pas de questions avec des sculptures sculptures romaines. Alors. Et quand j'ai commencé à faire des statues imprimées en 3D, j'ai pensé que je peux faire tout taille, mais ce n'est pas possible. Il y a des limitations de l'espace d'imprimer en 3D. Et moi, j'ai pensé peut-être que c'est une chance de prendre cette limitation à une ça peut être productif, on dit
comment
productive,
ça peut être
j'ai dit je vais utiliser ça, je vais pas cacher, mais je vais faire des imprimants en différents matériaux et les construire, et ça a devenu un peu une possibilité de jouer avec la forme pour moi. Mais ça commence avec une limitation. Ouais.
Ça rejoint la thématique de l'hybridation aussi, en réalité.
Oui, c'est vrai. Oui. Mmh. Et aussi, pour moi, c'est intéressant de ne pas faire seulement une, mais de faire celle-là et de faire une autre quand je change ce pas. Mmh. Peut-être dans un autre matériau, et on peut le changer avec le temps. Mmh. Et peut-être si ça casse, je n'ai pas besoin de faire exactement comme ça, je vais utiliser les méthodes qui sont autant de le refaire. C'est un peu comme le, je sais pas, c'est en français le bateau de Ship of Theseus, le bateau qui sort du port et revient, et chaque part a été changé.
Est-ce qu'il y a une signification des différents petits carrés, les ronds, les losanges?
Moi, j'ai essayé de trouver une solution de déconstruire la forme, mais quand même, elle reste, mais elle me donne la possibilité de voir dans la sculpture. Oui. Et j'ai commencé avec l'idée de la perforation. C'est un peu de
avoir cette possibilité. Et ça, c'est une chose que j'ai commencé avec cette exposition, de la construire, des lignes.
Et une alternance, c'est ça qui est intéressant.
Oui.
Petit, grand, le rond,
oui,
le losange.
Et oui, c'est ça. Oui.
Ça donne une dynamique, ça donne un mouvement.
Oui, oui, et ça, peut-être ça change un peu aussi la sculpture. C'est une autre idée de seulement la reproduire dans juste un matériau tout blanc ou je ne sais pas.
Et donc c'est la première fois que vous faites ça.
Ça, c'est la première fois, cette technique de, je sais pas, de grid
en,
ouais, de défilé.
Défilé, oui. Oui. Oui, mais c'est très intéressant.
Merci. J'ai commencé avec le nylon. Et après, c'est une peinture qui est utilisée avec des voitures, un peu le car tuning. Et c'est une couleur opalescente et elle s'appelle Aqua Aura. Alors moi, j'ai pensé que ça, c'est pas mal pour Neptune.
C'est un signe.
Oui, c'est un signe, oui. Et c'est aussi une couleur qui change avec votre... Si vous êtes ici, ça change, que vous êtes de l'autre côté. Il y a plusieurs couleurs, un peu des turquoises et
des roses.
Oui, des roses et... Ouais.
Donc je voulais savoir si Olivier Laric, vous aviez l'impression de retourner 2000 ans en arrière quand vous faites ces œuvres.
Je pense que c'est un peu aller en arrière et en avant en même temps. On ne peut pas dire que c'est une sculpture du moment ou une sculpture de l'année 300 avant. Ou c'est un peu entre les temps.
Ouais.
C'est un peu,
mémoire vive, c'est très bien justement. Ouais. Mais vous êtes l'artiste de 2000 ans en arrière, malgré tout, petit peu. Vous ne faites pas votre âge.
Merci. C'est gentil.
Alors j'espère que d'avoir entendu Olivier Laric parler dans un très bon français, et vous disiez que ce n'est pas n'importe quoi, il y a tout un fond culturel, il a fait des études très sérieuses, il a tout un acquis. Et j'aimerais que l'on conclue avant de se retrouver dans une deuxième émission pour détailler un peu ce que l'on voit dans l'exposition. La part du scientifique et la part de l'artistique. Et où se situe le conservateur du musée ou Cécile Carrier qui a fait partie aussi de l'équipe? Art, science, conservateur de musée. Vous brouillez un peu les pistes, hein, moi je trouve.
Alors, soit on brouille les pistes, soit on fait une proposition un petit peu inhabituelle d'une collaboration entre un artiste et un scientifique. C'est quand même quelque chose qui se développe pas mal. En fait, on est vraiment... c'est assez difficile de vous dire où commence quoi. Parce que nous, évidemment, on a présenté les collections à Olivier Laric. Et lui, c'est vraiment lui qui, spontanément, est venu chercher auprès de nous de la documentation. On était assez ouvert, vraiment, j'avais dit qu'on lui donnait une carte blanche et on lui a donné carte blanche. Donc, s'il avait voulu faire quelque chose complètement décorrélé du discours scientifique, il l'aurait fait et on n'aurait pas dit, on ne se serait pas plaint. Mais lui, il est venu chercher les conservateurs et l'équipe de conservation, et en particulier Cécile Carrier, qui est spécialiste vraiment de sculpture romaine. Et en fait, elle lui a donné tout un ensemble de documentation. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les œuvres qu'il a choisies sont pour la plupart des œuvres fragmentaires. Et en fait, le principe de son exposition, c'est de se dire, tiens, avec les moyens d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, je vais venir compléter ces œuvres et leur redonner une forme complète.
En fait, ce n'est pas une restauration, c'est une reconstitution.
C'est presque une reconstitution. En langage scientifique, on parlerait d'une restitution. C'est-à-dire restitution, c'est vraiment restituer ce à quoi ressemblait la statue dans l'Antiquité. Une reconstruction, il y aura peut-être un peu moins d'arrière-fond scientifique. Et souvent, les scientifiques font ça, font des dessins dans leurs articles où ils proposent l'œuvre complète en matchant un peu plusieurs hypothèses les unes avec les autres. Et là, ce que lui, il a fait, c'est qu'il aurait pu compléter de manière complètement fantaisiste et il a voulu compléter de manière scientifique. Maintenant, à partir du moment où la statue est imprimée, la plupart ont été imprimées en 3D, là, il y a un parti pris de l'artiste qui est très, très important et sur lequel repose toute la subjectivité. C'est-à-dire qu'il est parti d'une image restituée avec les hypothèses scientifiques. Et en fait, à la fin, il mélange les couleurs, il mélange les matériaux, il crée des pleins, il crée des lits, il crée des vides, il laisse apparaître les armatures, etc. Il fait beaucoup, beaucoup de choix, ce qui fait qu'à la fin, on a une œuvre originale qui n'est pas l'œuvre telle qu'elle aurait été à l'Antiquité.
Donc en fait, c'est son œuvre, ça appartient à l'artiste. Voilà, c'est une œuvre d'art contemporain.
Ah, tout à fait. Hein, tout à on ne peut pas considérer que c'est juste un modèle, une impression, ou comme on dirait un moulage, comme on a fait beaucoup par le passé dans les musées.
Alors, c'est une exposition temporaire. Est-ce qu'une de ces œuvres viendra dans le musée? Je pense que tout le monde vous pose la question. Est-ce que ça a sa place dans un musée archéologique?
Alors, une des œuvres à minima sera achetée par la ville de Nîmes. Peut-être elle sera présentée un temps au musée de la Romanité, c'est pas impossible, mais le musée de la Romanité, c'est un musée d'archéologie et vous savez que la loi nous dit qu'on doit avoir une collection qui est une collection d'archéologie. Mais par contre, on a une très très belle collection publique d'art contemporain à Nîmes, donc si la ville achète, ce sera certainement pour que l'œuvre intègre les inventaires de carrés d'art.
Ben, je vous remercie pour cette présentation. Nous avons écouté aussi les Verlaric et nous nous retrouvons dans une seconde émission pour détailler quelques-unes de ses œuvres. On a parlé du Neptune, on n'a pas dit qu'il avait été remis en eau, ça devait être un grand moment.
Tout à fait, et alors...
on parlera de l'enfant au chien, on parlera dans la seconde émission, mais c'est un peu compliqué et c'est toute la force justement de la personne qui est là au micro, d'essayer de faire visualiser à l'auditeur ce dont il parle. Merci beaucoup et à très bientôt.
Alliance Plus.